Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 en universel du lundi 27 août 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Arrestation au Mali d'un proche de l'opposant Soumaïla Cissé et ancien membre de la coalition présidentielle. En République démocratique du Congo, trois candidats à la présidentielle qui ont été recalés par la CENI ont déposé leur recours aujourd'hui. En Ouganda, le député de l'opposition Bobi Wine a été libéré après deux semaines de détention. Ici aux États-Unis, le sénateur républicain John McCain, mort samedi, sera inhumé dimanche prochain.
Son discours pour reconnaître sa défaite devant le président Obama est un modèle du genre où il a indiqué que selon lui, l'histoire, d'une certaine façon, avait joué en sa défaveur.
Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous au Mali. Un ancien cadre de la majorité présidentielle qui a rallié l'opposition a été interpellé à son domicile de Bamako. Paul Boro est accusé d'avoir armé un groupe de jeunes qui devaient tirer sur les forces de l'ordre lors de la marche organisée par l'opposition samedi. C'est en tout cas ce qu'a déclaré une source sécuritaire. L'opposition dénonce un règlement de compte post-électoral. La manifestation de l'opposition, qui a rassemblé samedi plusieurs milliers de personnes, s'est déroulée sans incident. En République démocratique du Congo, les candidats recalés de la présidentielle se mobilisent 48 heures après la publication des listes provisoires en vue des élections de décembre. Les avocats de Jean-Pierre Bemba, Antoine Gizenga, Sami Badibanga ont déposé leur requête contre la décision de la CENI. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après la Commission électorale nationale indépendante et ses listes provisoires, la Cour constitutionnelle entre en jeu pour trancher en dernier ressort. Elle a reçu durant toute la journée de ce lundi les délégations des 6 candidats présidents de la République dont les dossiers ont été déclarés irrecevables le 25 août dernier par la CENI. Le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, le parti lumumbiste unifié d'Antoine Gizenga, comme les anciens premiers ministres Sami Badibanga et Adolphe Mouzito espèrent tous en déposant leur requête contre la décision de la Commission électorale nationale indépendante que justice sera rendue en leur faveur. La période du traitement par la Cour constitutionnelle des requêtes des candidats présidents et députés nationaux ira jusqu'au 4 septembre courant, conformément au calendrier électoral. Entre le 5 et le 11 septembre, la Cour constitutionnelle va notifier la CENI de ses arrêts avant la publication des listes définitives prévues le 19 septembre 2018. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Par ailleurs, deux militaires congolais ont été tués par des présumés miliciens en Ituri, dans le nord-est de la RDC. Un groupe d'assaillants a ouvert le feu sur des soldats congolais en patrouille dans la localité de Lodjo, a rapporté un porte-parole de l'armée dans la province. Des affrontements meurtriers ont opposé le week-end dernier des groupes armés à Bria, dans le centre de la Centrafrique. Selon le porte-parole de la MINUSCA, la mission des Nations Unies dans le pays, il y a eu des affrontements entre les anti-Balaka et les FPRC, le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, avec des pertes dans les deux camps. Vladimir Montero a ajouté que les forces de sécurité centrafricaines et la police de la MINUSCA ont pris des mesures de sécurité et sont en alerte dans la ville. Au Cameroun, l'Église catholique demande aux Camerounais de voter pour les candidats capables de faire face à la crise sociopolitique que traverse le pays. Les évêques ont en outre proposé aux Camerounais de ne porter leur choix qu'à celui qui soit même de promouvoir l'unité du pays, son indépendance véritable. L'élection présidentielle au Cameroun est fixée au 7 octobre. 9 candidats, dont le président Paul Biya, sont en lice. En Ouganda, le chanteur et député Bobi Wine a été libéré sous caution après deux semaines de détention. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le juge Stephen Mubiru a accordé la libération sous caution à Robert Kyagulani, alias Bobi Wine, et 33 de ses co-accusés, dont deux députés de l'opposition. Certains opposants se sont portés garants pour leur libération sous caution. Lors de ses comparutions, le chanteur et député a paru affaibli, utilisant parfois des béquilles pour se déplacer. Sa famille et ses avocats affirment qu'il a été torturé pendant sa détention, des accusations rejetées par les autorités. Bobi Wine, depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017, est resté très critique du président Yoweri Museveni. Sa détention a déclenché des manifestations réprimées, notamment à Kampala. Mercredi, une centaine de musiciens, artistes et hommes politiques ont dénoncé dans une lettre ouverte le traitement qui lui a été infligé. Il est reproché à Bobi Wine et ses co-accusés d'avoir jeté des pierres sur la voiture du président Museveni en tournée dans le nord du pays pour soutenir le candidat de son camp à une élection partielle. Les accusés devront à nouveau comparaître le 30 août.
La police éthiopienne a arrêté ce lundi l'ancien président de la région Somalie. L'arrestation de l'ex-homme fort de la deuxième plus grande région d'Éthiopie, Abdi Mohamed Omar, également connu sous le nom d'Abdi Ile, intervient deux jours après que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé des poursuites contre lui. Abdi a été arrêté pour avoir été derrière les violations des droits de l'homme ainsi que les affrontements ethniques et religieux qui se sont déroulés dans la région Somalie, a précisé l'Ethiopian Broadcasting Corporation, citant le procureur général. La première ministre britannique Theresa May entame demain sa première tournée en Afrique. Elle commencera en Afrique du Sud, puis se rendra au Nigeria et au Kenya pour des discussions consacrées à la sécurité et au commerce. Clairement Ejiobour.
Theresa May va ouvrir sa tournée africaine par un discours sur l'économie, au Cap, en Afrique du Sud. À quelques mois de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la première ministre britannique a déclaré que le moment était venu pour son pays d'approfondir et de renforcer ses partenariats à travers le monde. Elle se dit impatiente de discuter afin de contribuer à la réalisation d'investissements importants et à la création d'emplois en Afrique. Des rencontres sont prévues avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président nigérian Muhammadu Buhari et le chef d'État kényan Uhuru Kenyatta. La sécurité sera le second thème de ce voyage et Theresa May devrait annoncer un soutien supplémentaire pour lutter contre l'instabilité dans toute la région. Il s'agit de la première visite d'un Premier ministre britannique en Afrique subsaharienne depuis 2013 et de la première au Kenya depuis le voyage de Margaret Thatcher en 1988.
Le président Emmanuel Macron veut donner une ambition nouvelle à l'aide apportée par la France aux pays en développement, une aide qui augmentera d'un milliard d'euros en 2019 après une longue période de baisse. Ce niveau reste toutefois en deçà de l'objectif international de 0,7% qui a déjà été atteint par le Royaume-Uni et l'Allemagne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les réactions continuent de tomber suite au décès samedi du sénateur américain John McCain. Le héros de la guerre du Vietnam souffrait d'un cancer du cerveau. Des cérémonies d'hommage auront lieu dans son état, dans l'Arizona et ici même à Washington. Les explications de Bagasikoura.
Le cercueil de John McCain sera d'abord présenté mercredi au Capitole de l'Arizona, état qu'il a représenté plus de 35 ans au Congrès. Les habitants pourront se recueillir devant sa dépouille. Un office religieux aura lieu jeudi dans une église baptiste locale. Le vendredi, il sera transporté à Washington où son cercueil sera présenté au public dans la rotonde du Capitole, un honneur réservé aux grands personnages de l'histoire des États-Unis. Les résidents de Hanoï au Vietnam ont aussi rendu hommage à l'ancien prisonnier de guerre qui a contribué à panser les plaies de la guerre du Vietnam. À l'époque, pilote de chasse, son avion a été abattu au-dessus de Hanoï, le 26 octobre 1967, blessé, John McCain a été capturé. Il a passé 5 ans en détention où il a été torturé et restera handicapé toute sa vie. Les funérailles nationales auront lieu samedi à la grande cathédrale de la capitale américaine. Les anciens présidents Barack Obama et George W. Bush devraient, selon le New York Times, prononcer des éloges funèbres.
Le président américain Donald Trump a annoncé un accord avec le Mexique sur la révision du pacte de libre-échange nord-américain ALENA. Le locataire de la Maison-Blanche parle d'un très bon accord commercial après de longues négociations de révision de l'accord. Donald Trump a par ailleurs indiqué qu'il allait appeler très bientôt le premier ministre canadien Justin Trudeau, un autre membre de l'ALENA. Il n'a pas exclu un accord séparé avec le Canada, mais aussi évoqué un accord trilatéral comme l'ALENA de 1994. Les États-Unis ont promis de se défendre vigoureusement face à l'Iran devant la Cour internationale de justice, ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. La CIJ qui a commencé à étudier une nouvelle procédure engagée par Téhéran contre les sanctions américaines. Devant la Cour, Téhéran a dénoncé ce lundi l'étranglement de Washington qui cherche à nuire sévèrement à l'économie iranienne en rétablissement des sanctions renforcées selon donc Téhéran. En Iran, justement, une étudiante de 21 ans a été condamnée à 7 ans de prison pour avoir participé à des manifestations à Téhéran. Parisa Rafaei a été reconnue coupable d'avoir participé à un rassemblement avec intention d'agir contre la sécurité nationale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Raissa Girondin qui nous présente la Minute Éco.
L'Éthiopie bénéficiera de 1 milliard de dollars de financement de la part de la Banque mondiale, a indiqué le Premier ministre Abiy Ahmed. Ce nouveau financement devrait permettre de financer le budget fédéral de 12,6 milliards de dollars adopté par le gouvernement en juin dernier. « Mon rêve et mon ambition est la tenue d'élections démocratiques », a-t-il d'ailleurs indiqué, promettant des élections libres pour 2020. La Banque mondiale identifie les principaux obstacles au commerce agricole régional en Afrique centrale. Il s'agit principalement de la faiblesse des liens entre les agriculteurs et les marchés, de la mauvaise qualité des infrastructures et des coûts élevés du commerce résultant de la corruption le long des corridors de commerce régionaux. Ce rapport de la Banque mondiale sera officiellement présenté le 30 août 2018 à Yaoundé. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara quitte Abidjan pour la Chine pour une visite d'État le 28 août et participer au troisième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine prévu les 3 et 4 septembre à Beijing. La rencontre de Beijing prévoit la signature de conventions de coopération entre la Chine et l'Afrique pour les 3 années à venir. Plusieurs présidents et chefs de gouvernements africains, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations unies et des organisations internationales sont annoncés pour ce forum Chine-Afrique.
À présent, la page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Éliminatoire Cannes 2019, la liste de la République démocratique du Congo pour la deuxième journée est tombée aujourd'hui.
Le sélectionneur Florent Ibenge a retenu 26 joueurs pour le déplacement des Léopards au Libéria le 7 septembre. On y retrouve des absences de taille. Cédric Bakambu qui enchaîne les buts en Chine, 13 réalisations en 15 matchs de championnat. Le meneur de jeu Gaël Kakuta et les défenseurs Marcel Tisserand et Chancel Mbemba, ces deux derniers étant blessés. Pour le reste, Matampi, Yannick Bolassier, Issaman Peko, Jonathan Bolingui et autres sont là, tout comme affirmé Moubele. En revanche, point de place pour les goléadors Jean-Marc Makoussou de V-Club et Ben Malango du TP Mazembe.
En Europe, Bastian fait ses adieux au Bayern demain.
L'ancien milieu de l'équipe d'Allemagne, Bastian Schweinsteiger, va célébrer son jubilé à l'Allianz Arena pour sa toute dernière apparition sous les couleurs du Bayern Munich. Opposé pour l'occasion à son nouveau club de Chicago Fire. Âgé de 34 ans, l'ex-capitaine de la Mannschaft disputera une période pour le Bayern et une autre pour Chicago. Il avait quitté le club bavarois pour rejoindre Manchester United en 2015. Après 17 ans et 20 titres avec le Bayern, il a disputé plus de 500 matchs avec le Bayern Munich qu'il a rejoint à l'âge de 13 ans.
Athlétisme, le Kenya va se doter d'un nouveau laboratoire antidopage au mois de septembre.
Et oui, l'annonce a été faite par la Fédération kényane d'athlétisme. Ce laboratoire analysera les échantillons sanguins concernant toutes les disciplines de l'athlétisme au Kenya, en Érythrée, en Éthiopie, en Tanzanie et en Ouganda. Jusqu'à présent, les échantillons sanguins des athlètes d'Afrique de l'Est devaient être envoyés en Afrique du Sud ou en Europe pour être analysés. Courant juillet, 5 coureurs kényans ont été provisoirement suspendus par la Fédération internationale d'athlétisme pour dopage. Au total, 114 athlètes kényans ont été suspendus pour des infractions liées au dopage, dont 54 le sont actuellement.
22 pays seront présents au championnat d'Afrique de karaté.
Oui, Kigali, la capitale rwandaise, accueille le continent à partir de demain et ce jusqu'au 2 septembre pour les championnats d'Afrique de karaté. 22 pays ont confirmé leur participation à l'événement. Deux événements se dérouleront pendant la période, la 17e édition du championnat d'Afrique senior et la 9e des juniors.
Merci Yakuba. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique et on passe tout de suite au dossier du jour. Longtemps réclamé par la population, l'armée nationale centrafricaine renaît progressivement de ses cendres, anéantie par la prise du pouvoir de la SELECA, une coalition de rebelles du Nord en mars 2013. Les forces armées centrafricaines doivent leur retour sur scène aujourd'hui aux appuis de la communauté internationale. C'est un reportage à Bangui de Freeman Sipila.
Malgré ses 12 000 hommes, la MINUSCA, la force de l'ONU, n'est pas parvenue à asseoir la sécurité réclamée par les Centrafricains. Aujourd'hui, plus de 60% du pays échappe au contrôle du pouvoir de Bangui, des régions totalement contrôlées par des groupes armés, pour la plupart de l'ex-SELECA. Ces hommes sont armés jusqu'aux dents malgré l'embargo imposé par l'ONU sur les armes à destination de la République centrafricaine. À Bangui, en deux ans, plus de 3000 soldats centrafricains sont déjà formés par l'Union européenne à travers sa mission technique EUTM. Après la formation avec EUTM, les mêmes soldats doivent subir une autre formation au maniement des armes et aux tactiques de combat données par des instructeurs russes au camp militaire de Biringo, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bangui. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra veut former une armée républicaine, mais de garnison avec ses militaires recyclés.
Il n'est plus question de faire une armée de projection, parce que vous voyez bien, il faudrait que l'armée se rapproche des centres de menace, se rapproche davantage de la population pour être aux côtés d'elle. Et je pense qu'avec le soutien, je le dis bien, parce que nous avons des difficultés aujourd'hui, mais il y a certains partenaires qui commencent à s'annoncer pour nous aider à mettre en œuvre cet objectif d'armée de garnison.
Grâce aux dons en moyens logistiques des États-Unis, de la Chine et de l'Union européenne, l'espoir renaît au sein de la population. Aujourd'hui, le redéploiement de l'armée nationale à l'intérieur du pays devient une nécessité et un moyen incontournable pour la restauration de la sécurité. À Paoua dans le Nord, les déplacés commencent à regagner leurs habitations. Capitaine Thierry Nambobona, chef des FACA déployé dans cette ville.
On a un dispositif qui couvre plus de 110 km et un autre qui couvre plus de 90 km tout proche de la frontière tchadienne. Donc avec les événements qui se sont passés, il y avait plus de 86 000 déplacés qui étaient dans la ville de Paoua. Ben aujourd'hui, tout le monde est reparti dans les villages et puis ils vaquent librement leurs occupations, ils font leurs travaux champêtres.
À Sibut-Bongassou, où les forces armées sont trafiquées, sont également redéployés. Le calme est revenu et les activités champêtres sont relancées. Serge Singa Bingba, président du collectif des députés du Mbomou, se félicite de la calmie retrouvée.
Actuellement, effectivement, la situation sécuritaire s'est grandement améliorée avec le redéploiement des FACA. Depuis que les FACA sont à Bangassou, de nombreux déplacés qui avaient choisi de s'exiler en République démocratique du Congo reviennent massivement dans la ville, confiant en la capacité de leurs forces armées nationales à assurer leur sécurité.
Le gros problème qui reste en ce moment est la solution à l'équation groupes armés hostiles à la présence de l'armée nationale dans les zones sous leur contrôle. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
La première ministre britannique Theresa May entame demain mardi en Afrique du Sud sa première tournée en Afrique, une tournée qui l'amènera également au Nigeria et au Kenya pour des discussions consacrées à la sécurité et au commerce. Tunde Fatunde, enseignant à l'Université d'État de Lagos, explique les enjeux du séjour africain de Theresa May.
Brexit veut dire une relation rompue économiquement et financièrement avec l'Union européenne. Donc il faut chercher ailleurs. Et pour chercher ailleurs, l'Afrique devient un point de référence pour les Britanniques. Le Brexit est une erreur fondamentale et les Anglais l'admettent. ils ont voté pour Brexit et voilà qu'il y a un problème qui se pose. Donc, ils sont obligés de regarder ailleurs, pour chercher d'autres partenaires. L'Afrique devient maintenant l'une des possibilités de se faire surface.
Quel type de proposition de coopération la première ministre britannique peut proposer?
C'est pour essayer de trouver une alliance, une relation financière et économique. C'est-à-dire, une fois de plus, c'est pour trouver un marché pour les produits britanniques.
Alors, l'un des volets de cette visite de la première ministre britannique, c'est la sécurité, avec par exemple au Nigeria la lutte contre Boko Haram. On savait la France présente, on savait les États-Unis présents. Quelle est la valeur ajoutée de la Grande-Bretagne?
C'est pour pouvoir aussi vendre des armes. Pour lutter contre l'insécurité, il faut des experts et des armes et munitions. Donc peut-être que ça pourrait être un débouché pour la compagnie militaire britannique. Vous savez que l'instabilité demande une coopération entre les agents de sécurité pour lutter contre l'insécurité. Les Anglais ont délaissé l'Afrique depuis longtemps parce qu'ils trouvent que l'Union européenne est une alternative à l'Afrique. Maintenant, peut-être qu'ils sont obligés de réfléchir là-dessus.
Il y aura une autre étape en Afrique du Sud. La première ministre va atterrir à Pretoria au moment où le président Ramaphosa est en train de mettre en application la réforme agraire. Londres s'est toujours opposé à ce type de politique. Ne pensez-vous pas qu'on va vers un clash?
Écoutez, l'Afrique du Sud, c'est un pays indépendant et souverain. Donc, l'intervention britannique, pour moi, c'est une intervention qui n'est pas la bienvenue. La Grande-Bretagne n'a pas exécuté la promesse financière pour le Zimbabwe à l'époque. C'est ce problème qui se pose. Maintenant, aller en Afrique du Sud pour maintenant dire que le diktat britannique doit être mis en application à Pretoria, pour moi, ça sent un parfum néocolonial. Je suis sûr que les Sud-Africains sont capables d'apporter une réponse adéquate à ce problème de terre.
C'était Tunde Fatunde, joint à Lagos par Jean-Roger Bion.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Tête à tête à la Maison-Blanche entre le président Donald Trump et son homologue kényan, Uhuru Kenyatta, dans un entretien accordé à notre collègue Esther Gitui du service anglais de la VOA, le leader kényan a évoqué un certain nombre de dossiers. Les explications de Timothée Donangmaï.
Uhuru Kenyatta a dit être venu à Washington pour des discussions sur la coopération sécuritaire et les échanges commerciaux avec les États-Unis.
Nous voulons voir comment améliorer nos relations commerciales, comment encourager un plus grand nombre d'investissements américains à venir au Kenya pour prendre avantage des réformes que nous avons mises en place, particulièrement au cours des 4 dernières années.
Le président Uhuru Kenyatta s'est dit déterminé à mener jusqu'au bout la bataille contre la corruption.
Nous apprécions spécialement le soutien que nous recevons des États-Unis en termes de renforcement de capacités et de formation et l'implication de leurs agences comme le FBI et d'autres avec lesquelles nous sommes en étroite collaboration.
Après les vives tensions déclenchées par la présidentielle de 2017, le président kényan a assuré que sa poignée de main symbolique du 9 mars 2018 avec l'opposant Raila Odinga tient toujours.
Après tout, nous appartenons à une même nation, un même pays, le Kenya. Nous sommes un seul peuple. Il n'est dans l'intérêt de personne de permettre à des différences politiques de provoquer la désintégration de notre pays.
Au plan régional, le président Kenyatta a fait part de la détermination des pays d'Afrique de l'Est à soutenir le processus de paix sud-soudanais pour le bien de la population du Soudan du Sud. Il se réjouit des importantes réformes engagées en Éthiopie par le Premier ministre Abiy Ahmed.
Il a une vision pour son pays et il a une vision pour notre région également. Et j'entends collaborer étroitement avec lui pour que cela se réalise.
Le président Uhuru Kenyatta s'est félicité du rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Cela contribuera à la paix et à la stabilité en Afrique de l'Est, a-t-il souligné.
Et ici aux États-Unis, les hommages continuent pour saluer la mémoire du sénateur John McCain, mort ce week-end. Beaucoup saluent son esprit de consensus et sa capacité de rassemblement, surtout au moment où républicains et démocrates ont du mal à s'entendre sur des questions idéologiques. Pour analyse, Herman Nungbo a joint à New York l'universitaire Souleymane Bachir Diagne.
Les hommages s'adressent beaucoup à l'homme tout court qu'il était. Il a eu évidemment un destin absolument extraordinaire. On rappelle toujours sa jeunesse, son combat au Vietnam et le fait qu'il ait été pendant 5 ans prisonnier de guerre, qu'il ait connu la torture. Il a survécu à ces 5 années-là avec beaucoup de bravoure, manifestant beaucoup de fermeté. C'était donc un homme de courage physique. Et c'est cette personnalité qui est saluée par beaucoup aujourd'hui.
On salue son parcours exceptionnel, notamment 6 mandats au Sénat. Mais pourquoi n'a-t-il pas pu se faire élu président après 2 tentatives, d'abord avec le président Bush, puis face à Barack Obama?
Évidemment, il y a toujours les impondérables de l'histoire. Le président Bush avait pour lui la machine républicaine. Il était un peu l'outsider. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait concernant Barack Obama, paradoxalement, c'est lui-même qui l'a expliqué. Il lui a rendu un hommage vibrant parce que son discours pour reconnaître sa défaite devant le président Obama est un modèle du genre où il a indiqué que selon lui, l'histoire, d'une certaine façon, avait joué en sa défaveur. L'histoire était vraiment en faveur de la candidature de celui qui était alors son collègue au Sénat, Barack Obama. Et c'est McCain lui-même qui a dit cela. Mais au-delà du fait que ces deux hommes lui ont barré la route de la présidence, ce qui indique quelle personnalité était la sienne et quel être humain il était, il a lui-même demandé que ces deux personnes parlent pour ses funérailles. C'est véritablement une indication du caractère exceptionnel de cet homme.
Justement, le sénateur McCain n'a pas voulu que le président Trump prononce un discours à ses obsèques. Votre réaction?
Bon, ils sont tellement différents. Je crois qu'on ne peut pas être plus différent que le sénateur McCain et le président Trump, bien qu'ils soient tous les deux du même parti. Disons que McCain était véritablement l'incarnation du parti républicain dans son opposition à la Russie de Poutine, dans sa volonté d'être leader d'un monde qui avait été le monde organisé par les États-Unis eux-mêmes après la Deuxième Guerre mondiale. Alors que le président Trump balaye tout cela d'un revers de main.
Pensez-vous que Donald Trump peut-il décider de ne pas se rendre à ses obsèques et juste se contenter de cette tweet?
Je crois que ce sera le cas, parce qu'il me semble que le sénateur lui-même avait demandé expressément à sa famille que le président Trump ne soit pas là, d'après ce que j'ai compris des nouvelles.
C'était Souleymane Bachir Diagne de Columbia University, ici à New York.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
So give me your hand, I'm giving you my word.
On se quitte sur ce titre de Peace Square Forever, un titre choisi par Georges Léonard Sagnon qui l'a mis en onde. Je remercie également Joe Gill à la console. Moi, c'est Abdourahman Dia. Merci d'avoir suivi. On reste en contact sur Facebook. Ainsi va le monde aujourd'hui. Au revoir.